Cœur de patrimoine, Cédric Decoeur.
On poursuit notre voyage ce matin au cœur de votre patrimoine en évoquant maintenant la situation des marchés financiers. Et c'est Daniel Gérineau qui est avec nous. Bonjour Daniel.
Bonjour Cédric.
Merci d'être au rendez-vous sur Radio Patrimoine pour Carlton Sélection et nos banques centrales, notamment la Banque Centrale Européenne qui fait pas mal de déclarations, qui regarde les chiffres qui s'accumulent et qui dit pas mal de choses, qui donc est très active et qui confirme donc qu'elle va prendre le lead. Finalement, ce qui est quasi historique. Hein. Vous savez, nous les journalistes, on aime bien trouver tout le temps les qualificatifs superlatifs. Donc voilà, on va marquer le pas du côté de Francfort en faisant les choses avant la réserve fédérale. Qu'est-ce que ça vous inspire de voir ainsi la BCE à l'initiative ?
Eh ben, c'est une bonne nouvelle, entre guillemets, quand même, parce qu'on avait quand même une situation économique qui était plutôt dégradée en Europe, qui nécessitait une intervention de la part de la Banque centrale. Enfin du pragmatisme, ça c'est plutôt pas mal. Moi c'est un petit peu le sentiment qu'on avait au tout début de l'année, c'était de se dire, bon, la logique c'est toujours la Fed qui donne le ton et la BCE qui suit derrière, mais chez Carlton on avait dit normalement ça devrait être la BCE qui devrait intervenir prioritairement parce que le problème est plus proche de l'Europe que des États-Unis. Alors pourquoi la BCE a décidé d'intervenir ? Il y a des raisons aussi, c'est que l'inflation est quand même revenue tout près des objectifs, hein, On est à 2,3-2,4, c'est plutôt pas mal. Mais surtout, je crois qu'on a vraiment une Europe qui est en difficulté économique, hein, puisque la croissance va être assez faible, de l'ordre de 0,5, alors que les États-Unis sont sur un trend beaucoup plus important, avec une croissance plus forte. Donc, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que quand vous avez l'économie qui ralentit, la Banque centrale en intervient. Aux États-Unis, l'économie ralentit pas tellement, elle est même plutôt sur un rythme soutenu à 2,5%, donc il n'y a pas de raison a priori de le faire, d'autant qu'aux États-Unis, l'inflation est quand même restée sur des niveaux assez élevés, du moins en apparence. Après, on peut discuter de cette apparence qui n'est pas toujours conforme à la réalité.
D'autant que cette banque centrale américaine, cette réserve fédérale, elle se retrouve aussi potentiellement coincée par le calendrier électoral. Alors là, encore, on pourrait objecter, mais rien n'est gravé dans le marbre, en fait, ce n'est pas obligatoire. Oui, d'accord, mais n'empêche que, historiquement toujours, j'en reviens à ces superlatifs, la Fed refuse ou accepte de ne pas s'immiscer dans une élection présidentielle. Et là, on sent que le calendrier ne va plus être tout à fait confortable pour la Fed. Ça change quelque chose pour elle ou au contraire, la situation aux États-Unis est telle qu'on n'est pas à quelques mois près ?
Alors, c'est compliqué pour la Federal Reserve d'intervenir juste dans la période électorale parce qu'on peut la suspecter d'avoir des privilèges.
De vouloir influencer l'un ou l'autre.
Et en ce moment, quand on regarde les discussions qu'il y a sur les réseaux américains ou même sur les providers, les gros providers financiers, vous avez des graphiques qui ne parlent que de Trump, Biden, Biden, Trump, Trump, Biden. Donc c'est chaud, c'est sensible, on en parle énormément. Alors la Federal Reserve, oui, c'est compliqué. Alors une possibilité d'intervenir, ce serait au mois de juillet. Là, très clairement, je pense qu'elle ne le fera pas. Après, c'est septembre, puis décembre. Donc, ça va être très, très, très compliqué. Moi, je pense que clairement, le train est passé et que la Federal Reserve risque de faire un mouvement qu'au mois de décembre, une fois les élections passées, sous réserve de que va-t-il se passer au moment des élections.
Bien
Pourquoi
sûr.
Et alors, elle est en plus aidée par, finalement, les données macroéconomiques, puisqu'on voit quand même, malgré tout, que la croissance économique américaine est très forte, elle est soutenue. Donc, le président de la Federal Reserve, à plusieurs reprises, il a dit bah « Oui, mais moi, j'ai aucune raison de baisser les taux. Je suis dans une situation où l'emploi reste malgré tout solide. Et puis, j'ai ce problème de loyer. » Et là, on peut en parler parce que là, c'est un faux-nez. On a une inflation qui est tirée en grande partie, quasiment 30%, par les prix des loyers. Or, l'inflation américaine sort à 3,5%, 2,4% en Europe, hein, pour mémoire. Et lorsque vous regardez cette inflation, elle est essentiellement tirée par ce qu'on appelle les loyers indus par les propriétaires. Les loyers indus par les propriétaires, c'est quoi ? C'est tout simplement le loyer que vous auriez à payer si vous n'étiez pas propriétaire mais locataire de votre bien. Et en général, les biens dont on est propriétaire sont de meilleure qualité que les biens qu'on met en location, donc les loyers sont plus élevés, et ça ne correspond pas du tout à la réalité. Mmh. Ce qui signifie que le taux d'inflation que l'on a aujourd'hui aux États-Unis de 3,5%, quand vous le corrigez de cette donnée-là, c'est plus que 2,6.
Ah oui.
Donc les marges de manœuvre pour la Fed sont là. Mais officiellement, c'est 3,5.
Bon.
Et donc, elle laissera passer sans doute son tour, ce qui veut dire que le dollar va monter.
Oui, c'est ça, parce que pour le moment, tout va bien. Mais si la BCE bouge une première fois, puis une deuxième fois, et que la Fed ne fait rien, là, pour le coup, ça va tanguer sur la devise.
Ça va tanguer sur la devise. Alors attention, parce que si ça tangue sur la devise, ça veut dire que nous, on va avoir les prix importés qui vont monter. Or, revenons toujours sur l'histoire de l'inflation. L'inflation qui a 2,4, elle est en grande partie tirée par les prix à l'importation, qui sont très bas. Or, si l'euro faiblit face au dollar, ça veut dire que les prix à l'importation vont monter et que finalement cette
donc
marge de manœuvre...
Donc notre inflation va repartir.
Et ben voilà.
Et notamment avec les matières premières.
Et alors les matières premières aujourd'hui, où il faut regarder le monde de demain, ce sera le monde des métaux et des minerais. Tous les métaux de la transition énergétique, c'est-à-dire aluminium, lithium, cobalt, vous avez le nickel, vous avez l'étain pour les soudures, vous avez le zinc. Tous ces métaux-là sont en train de monter progressivement avec le cuivre.
Et ils se payent en dollars.
Ils se payent bien évidemment. Toutes les matières premières, sauf le gaz naturel, se payent en dollars.
Donc, il faut regarder ça avec beaucoup d'intérêt quand on s'intéresse au contexte absolument dans lequel évoluent nos marchés. Et pourtant, nos marchés actions, eux, ils se portent bien, voire même très bien, voire pour certains, excellemment bien. C'est encore quand même le moment, quand on est épargnant aujourd'hui, d'avoir ou de renforcer ou de constituer une poche action.
Alors, la vraie question, c'est faut-il avoir effectivement des actions ou pas? Le marché a monté. Mais pourquoi le marché monte? Le marché monte parce qu'il attend des baisses de taux. Est-ce qu'on a eu des baisses de taux jusqu'à présent? Non, et pourtant le marché est haut. Pourquoi? Quelle est l'explication du phénomène? Tout simplement parce que nous avons une quantité de monnaie qui n'a pas été réduite. La masse monétaire aujourd'hui, dans le monde, enfin, si on prenons simplement États-Unis, Europe, 30 000 milliards de dollars. Ça n'a pas baissé.
Ouais.
C'est ce qui explique que nous allons avoir un marché des actions qui va continuer à monter et nous allons commencer, au cours du deuxième semestre 2024, à créer des bulles. À créer des bulles sur la partie actions, à créer des bulles sur le high yield, les spreads de crédit, et revenir sur une valorisation des actions. Point bas de l'immobilier, pardon. Point bas sur le marché de l'immobilier, fin 2024.
Mais ça veut dire qu'il faut se méfier de cette part action aujourd'hui, d'autant plus parce que vous nous parlez de bulle, que voilà, il y a des mots hein, en investissement action. On va dire que d'habitude, il y a soit de la stratégie value, soit de la stratégie croissance, ou alors on peut faire un peu de valeur défensive. Enfin bref, voilà, il y a des espèces d'étiquettes qu'on colle sur les actions. Aujourd'hui, on se dit le value, la value, c'est mort. Tout le monde veut que de la croissance, donc cette bulle, elle se fera sur les 7 magnifiques, sur sur le luxe, sur...
Non, parce que la bulle, on ne l'a pas aujourd'hui. Il n'y a pas de bulle. C'est plus valorisé, mais la bulle, elle va venir.
Oui,
quand
non, mais elle viendra sur elle ces viendra thématiques croissance.
Alors,
sur.
Aujourd'hui, analysons rapidement pour un investisseur qui crée un patrimoine. S'il observe ce qui s'est passé depuis le début de l'année, le premier trimestre, qu'est-ce qu'on a eu? C'est les valeurs de croissance qui ont performé.
Ouais.
Et depuis le 1er avril, et ce n'est pas une blague, jusqu'à maintenant, c'est l'inverse. En fait, ce sont plutôt des valeurs de rendement qui ont performé et les valeurs de croissance qui ont contre-performé. Donc aujourd'hui, il faut être sur quoi? Objectivement, nous, on pense qu'il faut toujours être sur la techno et le luxe. Ça, ce sont des valeurs...
Des grands classiques.
C'est des grands, classiques,
des grands classiques
avec vraiment des perspectives. La technologie, on ne passera pas à travers. La cybersécurité, le pricing power est énorme. Le luxe, oui, parce qu'on voit qu'il y a un petit redémarrage en demi-teinte en Chine, mais ça suffit pour réalimenter les choses. Mais après, il faut faire très attention. Il y a des secteurs dont les attentes de bénéfices sont trop élevées, comme les télécoms, comme l'automobile. Là, il faut se méfier de ces secteurs. Ou l'assurance, où là, on a des attentes qui sont vraiment délirantes, avec des prix trop importants. Et donc, nous, on pense que dans un premier temps, phase de cet été, aller plutôt sur des valeurs de rendement, c'est-à-dire les valeurs qui vont, tout en conservant hein, le socle de technologie, de luxe et de cybersécurité, mais aller sur des valeurs type foncière, sur des utilities, aller sur toutes ces valeurs qui vont bénéficier de la baisse des taux qui va arriver dans les semaines qui viennent.
Et est-ce qu'il faut regarder la taille des boîtes qu'on mettrait en portefeuille là, pour profiter de cette hausse que vous nous pronostiquez entre guillemets, sur les marchés du fait du volume des capitaux? En clair, est-ce que les petites et moyennes capis qu'on quand même pas eu un grand intérêt ces derniers temps et que certains jugent sous-évalués. Est-ce que, justement, il y a matière à profiter, à faire des bons plans, entre guillemets, en allant chercher dans cette partie de la cote qui est un petit peu moins goûtée, on va dire, même si ces dernières semaines, ça a déjà pas mal frémi, mais bon.
Ça frémit, mais ça n'arrête pas de frémir. En fait, c'est les belles endormies qui ne se réveillent jamais. Le problème des small mid-cap, c'est que naturellement, ce sont des valeurs qui ont plutôt un biais, on va dire, croissance, et qui ont, la plupart, également un biais cyclique. Et quand vous achetez des small mid-cap, en tout cas européennes, hein, parce que les mid-cap américaines, c'est des large cap européennes, quand vous achetez des mid-cap
ou
des small-cap...
Tout est une question d'échelle.
Voilà, européennes, vous achetez un call sur la croissance économique européenne. Là, moi, je suis vraiment pas prêt à acheter un call sur la croissance économique américaine, européenne, pardon. C'est quand même une croissance qui est plutôt atone, donc il faut être extrêmement méfiant. Alors oui, peut-être sur des small mid-cap italiennes, même si elles ont déjà un peu repris, pas mal. Mm-hmm. Suisse, ok. Grande-Bretagne, ok. Allemande, surtout pas. Française, vraiment neutre. Et il faut faire très attention parce que, encore une fois, ce sont des valeurs qui vivent sur un territoire. Ce sont pas des valeurs exportatrices, bien donc sûr, qui ne profitent pas de la dynamique mondiale. Et donc, malheureusement, comme elles sont sur leur territoire et que leur territoire, qui est l'Europe, a beaucoup de mal à déclencher, à avoir de la croissance économique, ce sont des valeurs plus difficiles à maintenir en portefeuille et qui souffrent de la hausse des taux. Et en plus, ce sont les premières qui sont impactées en cas de difficultés liées à des coûts de financement ou des programmes de financement qui sont beaucoup plus réduits, beaucoup plus durs à atteindre pour ces entreprises. Donc, nous sommes plutôt méfiants sur les small mid-cap. En disant une dernière chose, c'est qu'à un moment donné, il faudra effectivement y retourner, mais lorsque l'horizon sera plus clair. Ça fait un an que nous entendons dire les small mid-cap, ça va repartir. Bon, on attend toujours le démarrage.
Le vrai rebond. Bon, il viendra peut-être.
D'autant que les large cap, il y a tellement de choses à faire.
On aura sans doute l'occasion d'en reparler. Merci beaucoup, absolument, Daniel, d'être passé, merci, dans Cœur de Patrimoine. Et on se retrouve très rapidement sur Radio Patrimoine. À tout de suite.
Cœur de Patrimoine, Cédric Decoeur.